Radio Canu vous présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Procuration meurtrière. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Je suis dans ma voiture. Ma voiture. Pourquoi ? Pourquoi ?
Casse-moi.
Au petit matin, les chants des oiseaux le réveillent. Il a un mal de tête terrible et froid. Mais qu'est-ce que je fais ici, en pleine campagne ? Sa Ferrari est en stationnement sur le rebord d'un chemin. Une femme passe à vélo, habillée avec une blouse marine à pois blanc. Elle s'arrête devant la voiture et voit un homme avachi sur son siège. Elle tape sur la vitre. L'homme la baisse. « Vous cherchez quelque chose, monsieur ?»«
Je ne sais pas. » Je crois que je ne sais plus où j'en suis. J'ai dû avoir un malaise. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus où je vais. J'en sais rien.
Là, vous allez à la ferme des Martins. C'est un chemin privé.
Ne réagis pas.
La ferme est à 5 minutes. Je suis la propriétaire.
Si vous voulez, je peux vous y conduire.
Et vous pourrez vous reposer un peu. Suivez-moi.
Pédale devant la voiture et il la suit.
Au bout de 5 minutes, le chemin aboutit à la cour d'une ferme. Une grande maison avec grange, indépendance, une fontaine, un tas de fumier, tracteur et des poules qui picorent. Il s'arrête devant l'entrée de la maison. Sort de voiture. Elle le conduit à l'intérieur de la maison. Petit couloir qui donne dans la cuisine et aux escaliers. À l'intérieur, il y fait sombre et frais. Elle le fait asseoir à la table de la cuisine.
Vous voulez du café au lait ?
Oui, merci.
Elle va à la cuisine et prépare le café.
Puis, elle revient vers lui.
Vous vous appelez comment ?
Comment ?
Comment ?
Je ne sais plus.
Il se gratte la tête.
Non, non, je ne sais plus. C'est vrai, je ne sais même plus qui je suis. Non, non, je ne sais plus.
Ce n'est pas grave, ça vous reviendra.
Moi, c'est Marie-Claude Martin. fois qu'il a pris son petit déjeuner, comme elle voit qu'il ne bouge pas de sa chaise, elle lui propose qu'il aille se reposer dans une chambre du haut. « Vous sentirez certainement mieux après. Ce doit être la fatigue. Venez. » Il la suit et monte à l'étage. C'est la deuxième chambre. Non, pas celle-là. Elle est fermée à clé. C'est celle-ci. Elle ouvre la chambre. Voilà. Les volets sont fermés. Un grand lit avec dessus un gros édredon rouge. Une grande armoire 1930 avec glace. Le parquet est blanc, délavé. Étendez-vous. Je vous appellerai pour le robot Nili. Elle le regarde qui quiste sa veste. C'est un homme de 40 ans, grand, brun. Elle, elle est plutôt grande, forte. Les cheveux gris sont mis en chignon. Une fois qu'elle ait quitté la chambre, l'homme se déshabille et se couche en gardant son pantalon. Dormir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de ce que je suis? Où allais-je? C'est terrible de ne plus se souvenir de rien. Mais que je suis bête. Et si je regardais dans mes poches? Il se lève. Regarde dans les poches de son pantalon. Il y a trouvé un mouchoir, un briquet et deux pièces de 1 franc. Tout à l'heure, j'irai voir dans ma voiture. Pendant ce temps, la femme est dans la cour. Elle tourne autour de la voiture, puis ouvre le coffre qui n'est pas fermé. À l'intérieur se trouve recroquevillé le corps d'une femme blonde habillée d'une robe rouge. La femme referme le coffre, puis ouvre la portière avant côté chauffeur. Elle se penche et regarde à terre. Il y a une clé à molette tachée de sang. Dans le vide-poche, portefeuille noir. Elle le met dans sa poche et ferme la voiture. Vers les 11 h, l'homme réussit à s'endormir. À 11 h 30, il est réveillé par quelqu'un qui frappe à la porte. Il se lève. Il met ses vêtements en vitesse et va ouvrir. C'est la femme. Le repas est prêt. Je vous remercie. Et ils descendent les escaliers. Ils vont à la cuisine. Mais avant d'entrer dans la cuisine, il lui dit « Je vais aller voir si dans ma voiture il n'y a pas des papiers. J'ai complètement perdu la mémoire. Je ne sais même plus qui je suis. Allez-y, mais dépêchez-vous. » D'heure plus tard, l'homme revient. Il n'a rien trouvé. Ce n'est pas possible, ça. Je n'ai pas pu prendre ma voiture sans avoir pris des papiers. Il retrouve la femme à la cuisine. Elle met le couvert. J'ai préparé une ratatouille. Je n'ai rien trouvé, rien de rien. Ce n'est pas normal, ça.
Asseyez-vous donc. Mangez. Après, ça ira mieux.
C'est ce qu'il fait.
Et si je me présentais à la police? Surtout pas. Ils seraient capables de vous enfermer, de vous accuser de tous les larcins des environs.
Après avoir mangé, elle lui dit
« Écoutez, pendant que je fais la vaisselle, vous allez vous reposer un peu dans la chambre. » Il sort de la pièce et monte à l'étage.
Elle l'a suivi.
Non, ce n'est pas cette pièce. Vous voyez bien qu'elle est fermée à clé. C'est celle d'à côté, la vôtre. Vous pouvez circuler où vous voulez, sauf dans cette pièce. Pourquoi ? Elle est désinfectée.
Deux heures plus tard, il sort de sa chambre et descend les escaliers. Il retrouve la femme assise à la cuisine qui coud.
Asseyez-vous.
C'est ce qu'il fait.
Rester comme ça. Et si j'allais voir un médecin? Aujourd'hui, vous vous reposez. Après, nous verrons. Pensez donc à autre chose. Vous vivez seul?
Je suis marié. Mon mari est en voyage, mais il ne veut pas tarder à revenir. La vie n'est pas facile pour moi, vous savez. Ce sont mes parents qui nous ont mariés, parce que nos deux terres sont mitoyennes.
Fermière, c'est toujours pas drôle, hein? Lever à l'aube, préparer le petit déjeuner, faire le ménage, s'occuper des bêtes, du jardin. Et encore, heureusement que je n'ai pas d'enfant.
Le temps passe ainsi. L'homme retourne dans sa chambre. Sitôt couché, il s'est endormi. Tard dans la nuit, il est réveillé par un violent orage. Frappe à la porte.
Entrez.
C'est la femme, en chemise de nuit, les cheveux défaits, tout apeurée.
J'ai peur de l'orage.
Elle entre. Elle se recouvre. Elle s'approche et s'assoit sur le lit.
Toujours eu peur de l'orage.
Un coup de tonnerre retentit.
De peur, elle se recroqueville sur le lit et se couvre les oreilles.
Ne craignez rien, ce n'est pas dangereux. Se raidit encore plus et se blottit. L'homme sent son corps contre le sien. Elle se retourne et tout en frissonnant, se plaque contre lui.
Il est froid. Je peux mettre dans les draps.
Oui. Elle se met dans les draps à côté de lui pour enlever sa chemise de nuit. Elle est toute nue dessous. Elle paraît plus jeune qu'habillée.
Réchauffe-moi.
Il la regarde, elle s'est étendue, les bras sur le haut de la tête. Il est pris de vertige, quitte son pantalon et son slip et se penche sur elle. Il pousse un « Ah !» de soulagement. Il lui baisse les seins et... Demi-heure plus tard, l'orage est fini. Elle revient au lit après s'être lavé, une cigarette à la main. Eh bien, on peut dire, toi, hein, t'as peut-être perdu la mémoire, mais la mécanique marche. En parlant de mécanique, je viens de penser à une chose. J'ai complètement oublié de regarder dans le coffre de la voiture. Elle l'embrasse sur le front. Repose-toi. Ne fais pas de soucis. On est bien tous les deux, hein? Et ton mari, il se repose. Où? Quelque part. Tu m'as bien dit qu'il allait revenir. Oui. Quand? Tu ne le verras pas. Allez, dors. Elle se lève, ramasse sa chemise de nid qui était au pied du lit et sort. Demain, dans la journée, le téléphone sonne. Elle répond. Allô? Oui, oui, ça se passe bien. Ne t'en fais pas, oui. Tout va finir ce soir. Allez, au revoir. Après le déjeuner, l'homme aimerait s'en aller. Et où irez-vous? Je ne sais pas, mais il faut que je recherche mon identité. Lorsque vous saurez qui vous serez peut-être très déçu de ce que vous êtes. Restez donc comme cela. Ce n'est pas une vie. On n'est pas bien tous les deux. Je ne dis pas non. Restez encore avec moi aujourd'hui, tenez. Puis vous partirez. Venez, on va faire une petite sieste dans ma chambre. Ils vont dans la chambre. Les volets sont fermés, il fait frais, elle se déshabille. Il se couche et il va la rejoindre. Après un bon repas, il reste à table à la cuisine. Ça t'a plu? Oui. Elle se lève. Attends, je vais te chercher quelque chose. Va au buffet, l'ouvre et prends une bouteille. Amène la bouteille et le serre. Tu vas voir, c'est l'agneau de la vraie, pas trafiqué. Vas-y, tu m'en diras des nouvelles. Il en boit une gorgée. C'est fort. Ah, ça c'est pas pour les poules mouillées, hein. Vas-y, encore une fois. Il en boit encore une gorgée. Elle lui remplit encore une fois son verre. Une demi-heure plus tard, il est complètement ivre et se sent une irrésistible envie d'aller venir tout en ayant une sensation de vertige. Elle est debout à côté de lui. « Alors, comment te sens-tu ? »
« ça va, je pète le feu !»
Et lui donne une tape sur les fesses. « Encore un ?» Il hausse ses épaules.
« Pourquoi pas ?»
Elle le serre. Il boit. Je me demande si tu tiens le coup à l'alcool.
Ah, pour ça oui.
Tu n'y verrais pas un peu double ?
Moi ? Non.
Ben c'est ce que l'on va voir. Viens avec moi. Il la suit comme il peut et il monte à l'étage. Il est sur le palier et lui dit : Attends, je vais te chercher quelque chose. Il entre dans sa chambre. Ressort aussitôt. On sort avec une carabine.
Tiens,
il la prend. Tu sais t'en servir ?
Ouais, tu parles.
Eh ben, tiens, attends. Elle va vers la porte de la pièce qui est fermée à clé. Il donne un tour de clé. Ouvre la porte et entre. On ressort presque aussitôt. Se met à côté de lui. Maintenant, tu vas viser cette porte et nous allons voir si tu vas réussir à l'atteindre.
Tu rigoles ?
Il vise et tire. On entend un léger cri.
Ah !
C'est bien, mais c'est peut-être la chance. Essaye plusieurs fois. Il tire plusieurs fois. Retire de lui et prend une chaise qui est contre le mur. Proche derrière lui et la lui casse sur la tête. Tombée à terre, la carabine à ses pieds. Elle se baisse, la prend et tire plein dans son ventre. Descend les escaliers en vitesse. Pour en sortir, elle froisse ses vêtements. Il sort. Court en direction du bourg. Nuit, il n'y a personne dehors. Au secours ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! Dirigé vers la ferme voisine et frappe à la porte avec ses poings. Des fenêtres du premier étage s'ouvrent. Une femme en chemise de nuit apparaît.
Qu'est-ce que c'est ?
Elle lève la tête. C'est moi, Marie-Lou le Martin. Il m'est arrivé un malheur. Ouvrez vite.
Non, je descends.
Une minute après, la porte s'ouvre. Femme, en peignoir et pantoufles, les cheveux gris qui tombent, la fait rentrer. Elle l'amène dans sa cuisine. Elle la fait asseoir.
Que vous arrive-t-il ?
Ce soir, un homme est arrivé en voiture. Il a frappé chez moi pour me demander à boire. Je l'ai fait entrer. Malheureusement, il était ivre. Il a voulu
voulu abuser de moi. Je me suis défendue. J'ai monté à l'étage pour être près de mon mari. Comme vous savez, le pauvre homme est paralysé des jambes et sourd. Il ne peut pas bouger de sa chambre. Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est horrible. L'autre m'a suivi. Ivre, ne sachant ce qu'il faisait. Alors, je suis rentrée dans la chambre de mon mari. Une idée folle. J'ai pris une de ses carabines et je suis sortie pour menacer l'homme. Malheureusement, il était plus fort que moi. Il m'a arraché les mains larmes. Là, il s'est mis à tirer sur la porte de la chambre. J'ai entendu un petit cri. Je me suis dit, mon mari est peut-être derrière la porte. Il a dû le blesser. J'ai pris mon courage à deux mains, passé derrière l'homme et lui ai cassé la tête sur une... La tête avec une chaise. Il est tombé. J'étais folle, furieuse. J'ai pris la carabine qui était tombée à terre et tiré au ventre pour le tuer. Puis je suis accourue dans la chambre. Mon mari était sur la chaise, derrière la porte, ensanglanté. Mort. Alors je suis allé chercher du secours. Vous allez coucher chez nous. Demain matin, nous irons voir le maire.
Le lendemain matin, elles sont allées toutes les deux chez le maire, qui a prévenu les gendarmes. Ils sont allés à la ferme, rentrer dans la maison. Trouver l'homme mort abattu et le mari mort aussi. Puis, ils ont visité la voiture. Ils ont trouvé le cadavre d'une femme. Grâce au numéro de la voiture, ils ont pu savoir qui était l'homme et la victime dans la voiture. C'était un couple marié qui avait passé des vacances dans les environs. Le mari était très jaloux. Deux semaines plus tard, un homme dans un hôtel téléphone à Marie-Claude.
Allô? Oui, c'est moi. Ça va?
Oui.
Tu vois, lorsque j'ai vu l'homme assommer sa femme non loin de la ferme, j'ai tout de suite pensé qu'il pourrait nous aider. Je l'ai assommé et sa femme achevé à coups de clé à molette. Puis... je l'ai mis dans le coffre. Avant, je les avais vus dans le bar qui se disputaient. Maintenant, tu es libre, Jerry. Dans quelques mois, nous pourrons nous marier.
Et s'il n'avait pas perdu la mémoire, qu'aurions-nous fait?
Il faut jouer le jeu. Sa chance. Et puis, nous aurions fait la même chose. Je l'aurais assommé une seconde fois. Déboire de force. Et c'est moi qui aurais tiré. Ensuite, nous l'aurions mis la carabine à la main. Voilà. Allez, au revoir chérie. Ne te fais pas de soucis.
Et il pose le téléphone. 7 mois plus tard, il se marie et elle hérite de la fortune de son mari. Deux ans plus tard, en voulant changer une lampe d'un lustre, elle tombe d'un grand escabeau. Elle se tue. Un homme aurait poussé l'escabeau. Un an après, il se remarie avec une jeune fille de 25 ans.
Chérie, nous voici enfin réunis. Comme ça a été long toutes ces années où nous avons dû nous voir en cachette. Mais enfin, ça valait tout de même la peine d'attendre.
Nous sommes riches maintenant.
Je voulais épouser pour sa fortune, pour t'avoir toi. C'était une sacrée femme, tu sais.
Tu la regrettes ?
Non, pas du tout. Surtout lorsque tu es contre moi. Il la prend par la taille et l'embrasse.
Canu vous a présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre. Procuration meurtrière. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.